des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, après les fonctionnaires, c'est les députés fédéraux qui devront eux aussi supprimer l'application TikTok. L'inquiétude autour de l'application se poursuit. Le ministre Dubé déclenche une enquête à l'hôpital général du Lakeshore. Québec solidaire demande le départ de Gilles Courteau. Les restes d'un homme disparu retrouvé dans un requin.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors après qu'on ait demandé aux fonctionnaires fédéraux de supprimer l'application TikTok des téléphones du gouvernement, voilà que la même instruction a été donnée également aux députés fédéraux qui siègent donc à la Chambre des communes. Les employés à Québec de l'Assemblée nationale, c'est la même chose, mais pas encore les députés. Une décision qui pourrait être prise sous peu, donc c'est les dernières réactions.
Sincèrement, spécifiquement là-dessus, avant de commencer tout le reste, je pense pas qu'il faut y voir là aujourd'hui. Ça serait une erreur, je pense, de conclure que là les députés vont vouloir continuer à utiliser TikTok. Je pense juste que c'est plus procédural. Il y a une règle que c'est pas l'exécutif, il y a le législatif puis l'exécutif. Oui. Là. Puis l'Assemblée nationale, c'est le législatif, ce sont les députés. Et il y a le bureau de l'Assemblée nationale, des députés siègent avec le président de l'Assemblée nationale. Ils doivent prendre la décision pour eux-mêmes. Et tu sais, je veux dire. C'est un entonnoir, cette affaire-là, dans le sens que ça t'amène... Je veux dire, le fédéral le fait, les députés fédéraux, les ministres fédéraux, les fonctionnaires du Québec les imitent. Je
veux dire, c'est une question de temps plus que d'autres choses à ce point-ci.
Comment les députés à Québec pourraient décider, nous, on s'en va en sens contraire? Je le vois pas. Fait que c'est oui, on veut dire, ça va être fait dans les bonnes normes, qu'on se fait pas... Les députés, le législatif, ça fait pas imposer une façon de faire par le Conseil des ministres.
Oui.
Mais... on va arriver à la même conclusion. En tout cas,
ouais,
je vais être bien surpris si on n'arrive pas à la même conclusion. C'est pour ça que je dis que c'est comme un entonnoir. Là. T'es attiré, tout le monde s'en va dans le même trou. Là.
Ben, ça serait surprenant que Sonia Lebel puisse continuer à faire des TikTok dans son bureau quand tous ses employés n'ont pas le droit, eux, de l'avoir sur leur téléphone.
Dans le cas des ministres, ça m'apparaît déjà réglé parce que eux, c'est font comme pas des fonctionnaires, mais ils font partie du pouvoir exécutif. Alors moi, dans ma tête, c'est déjà réglé. D'abord, à Québec, à mon avis, les utilisateurs là, les plus gros, c'est Sonia Lebel. Il y avait Jean-François Roberge qui était récemment actif. Ouais. Il y a Québec solidaire qui l'a utilisé beaucoup en campagne électorale. Madame Anglade, ben, est plus là. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon était dessus, si
ouais,
je ne m'abuse, mais pas beaucoup. Donc, pour lui, je pense pas que ça a d'impact. Même chose pour Marc Tanguay.
Ouais, ça faisait partie vraiment des réseaux sociaux les plus utilisés pour se joindre auprès des jeunes, entre autres, oui. Là, de faire de la popularité, mousser un peu.
Mais au Canada, le perdant, c'est Jack Metzing, incontestablement.
Et qui a annoncé dans les dernières heures, Mario, qu'il allait prendre une pause de TikTok, mais il dit vouloir attendre l'avis d'experts avant de tourner le dos pour de bon à la plateforme, parce qu'il a, faut le dire, quand même une extrêmement grande popularité, tu le dis, sur TikTok, mais 880 000 okay, abonnés.
800, j'allais dire 800 000, 800, presque 900 000 abonnés.
Il est à 880 000 abonnés sur TikTok, il y a vraiment une histoire
politiquement,
jeune.
Politiquement, la valeur de ça, là, d'avoir là-dedans, ça doit être la moitié des jeunes de moins de 25 ans, une clientèle électorale difficile à rejoindre. C'est de l'or en bord. Là. Lui, il perd. Là. Écoute,
on le comprend de dire comme ça aujourd'hui, donc qu'il prend une pause, là, veut entendre d'autres avis d'experts, parce que pour pour lui supprimer son compte TikTok, comme l'ont fait certains autres politiciens sur la scène fédérale. C'est le cas, entre autres, de Pierre Poilievre, le chef des conservateurs, qui dit avoir supprimé son compte TikTok.
Il y avait beaucoup de monde, là, quand même.
237 000.
Il y avait une couple de 100 000, c'est ça?
Oui, 237 000, Pierre Poilievre avait. Il dit qu'il a supprimé même son compte dès l'annonce du gouvernement.
Quand tu supprimes ton compte, c'est comme on dit, c'est fini, là.
Ouais.
Si tu repars, tu repars, tu te crées un compte, puis
tu repars à zéro.
Tu repars à zéro abonné.
Je suis pas un expert du tout de TikTok, Mario, mais ça m'apparaît être la règle à suivre dans ce cas-ci. Donc, on comprend, M. Singh, de pas vouloir perdre 880 000 abonnés. Comme ça, on comprend que s'il se recréait un compte, il récupérerait une partie de ces gens-là, mais pas complètement, assurément. Et donc, lui va prendre une pause, parce que si c'est interdit sur leur téléphone de travail, il n'y a rien qui empêche les députés ou les gens de l'Assemblée nationale de l'avoir sur leur téléphone.
Et lui, il a son nom, son nom d'utilisateur, son mot de passe. Il peut le débrancher de son téléphone. En fait, des experts en réseaux sociaux disent qu'une des façons de faire qui pourrait être disponible, c'est d'avoir un téléphone, une espèce de téléphone vide.
Que pour TikTok.
Ou pour tes réseaux. À la limite, tu pourras avoir TikTok, Instagram, tes réseaux sociaux, mais où il n'y a pas, t'as pas tes contacts. Tu reçois pas de courriel. T'as pas les applications de ta banque. T'as pas les applications du Parlement.
À la limite, tu désactives même la géolocalisation de ton téléphone. Si tu veux pas le faire suivre.
Donc, t'as ton compte Facebook, ton compte Instagram, ton compte TikTok et d'autres, si tu veux, Twitter. Et là, tu diffuses tes messages politiques. Puis là, je veux dire, entre toi et moi, là, si t'as 900 000 abonnés, là, en termes d'argent, là, ça vaut un budget publicitaire.
Absolument.
Un compte de sel, mettons, qui va te coûter 80$ par mois, plus un sel.
On comprend sa stratégie, là, totalement, parce que de supprimer comme ça son compte WeChef, on le fait immédiatement. Ben, c'est difficile. C'est sûr que Pierre Poilievre l'ait fait.
Non, mais là
ça change la partie.
Il y a de la technologie, il y a de la sécurité, il y a de la politique aussi. Pierre Poilievre, présentement, là, lui, il pense qu'il est en train de crucifier Justin Trudeau sur le dossier de la Chine.
Il prend la ligne dure, la plus dure possible.
De la Chine. Donc, en fait, lui, il veut pas que Justin Trudeau, il réponde, ouais, mais là, toi, ton compte TikTok, fait qu'il veut laver plus blanc que blanc pour attaquer Justin Trudeau sur l'ingérence de la Chine. Puis écoute, le dossier, là, se complique pour Justin Trudeau, qui se fait maintenant accuser que la Chine l'avait approché, s'était approché de lui avant même qu'il soit élu premier ministre pour faire des dons à la Fondation Trudeau. Donc, tout le dossier de l'ingérence devient chaud, chaud, chaud pour Justin Trudeau. Je pense que là-dessus, les conservateurs se sont dit, là, tant pis pour les 200 000 abonnés, nous, il faut qu'on soit irréprochable sur le dossier de la Chine.
Bon, on verra si ça va payer, mais en ce moment, c'est la relâche parlementaire, hein, donc on n'a pas,
pas de période de questions tous les jours.
Oui, parce que faut comprendre
Mais lundi, à mon avis, l'opposition va être sur le dos de Justin Trudeau avec la Chine, l'ingérence, ça va être le dossier.
Il va pas avoir le goût de revenir de sa fin de semaine, M. Trudeau, ça c'est très clair. Du côté du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lui, a dit avoir retiré TikTok de son téléphone, a demandé à tous les autres élus bloquistes de le faire également. Il y avait Jean-Denis Garon, un député bloquiste.
Mais attention, faut pas jouer sur...
Retiré.
C'est ça. Il a retiré l'application de son téléphone.
Oui.
Il a pas dit qu'il avait demandé à TikTok la fermeture de son compte.
Non.
Donc, il pourrait se reconnecter. Tu sais, t'as ton nom d'utilisateur, t'as ton mot de passe.
Oh, tu peux te connecter sur n'importe quel appareil, comme pour Facebook appareil. Ou comme un autre réseau. Mais tu vois, Jean-Denis Garon, lui, devait avoir un événement TikTok en direct mercredi soir avec l'aile jeunesse du Bloc québécois. Et l'événement en tant que tel est annulé.
Non, forcément.
De fond en comble.
Présentement, c'est ça, c'est que présentement, tout le monde va le retirer de son appareil. Combien vont vraiment fermer leur compte? C'est ça qui va être à voir. Mais Jack Metzing, écoute, ces petites danses, là, ça...
Oh non, ça rapporte.
Et moi, je me souviens, ma fille,
pour lui.
Durant la dernière campagne fédérale, il y a un an et demi, moi, ma fille était au cégep. Puis je me souviens qu'elle était revenue du cégep. Elle disait, ah ouais, monsieur Singh, et lui, là, ça marche. Tout le monde regardait sa danse. Ça a marché chez les jeunes.
Ben, il y a tout son côté, en plus, là. Tu sais, c'est un beau monsieur. Sa femme, c'est une belle dame. Les deux ont de la classe. Ils ont un enfant. Tu sais, c'est tout ça.
Ils ont le tour d'utiliser
Ils ont compris les codes de TikTok parce que c'est compliqué, puis il y a des gens pour qui ça peut très mal passer. On se souviendra de Dominique Anglade qui avait fait une danse en pleine campagne électorale sur TikTok. Pis
ça, le monde avait été sévère. Moi, j'avais pas trouvé ça mauvais. Là.
Non, mais c'est parce que t'es pas un jeune branché sur TikTok nécessairement,
non,
Mario. Il y a comme des codes à suivre, puis on dirait que là-dessus, Mme Anglade, le jugement public qui était passé, c'était qu'elle essayait trop, tu sais, comme d'être jeune, éco, les branches, elle voulait trop. Puis pour quelqu'un comme Jagmeet Singh, on dirait que ça vient là sans effort. C'est comme naturel,
ouais,
comme respirer.
C'est un peu chiant parce qu'entre les deux, il faisait du cas.
Oui, moi, c'est sévère, je trouve aussi. Ouais, ouais. Mais dans le terme de code TikTok, de code des réseaux sociaux, ben il y a, un petit ouais, tour que M. Singh a, que Mme Anglade, malheureusement pour elle, n'avait pas. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclenché une enquête à la suite de révélations troublantes qui concernent le décès de plusieurs personnes survenues à l'hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire. Et c'est le quotidien ici montréalais de Gazette qui publie dans les derniers jours plusieurs reportages qui font état de morts survenues dans des circonstances qui sont, dit-il, hautement controversé à l'urgence de l'hôpital. On parle entre autres là d'un ex-policier qui se serait pendu avec le cordon d'une sonnette après avoir passé 14 heures sur une civière à l'urgence. Et là, ce qu'on explique du côté de M. Dubé, c'est qu'il faut vraiment se pencher sur le dossier, qu'il y a peu d'informations pour l'instant.
Faut dire en partant que c'est pas... On dit 6 décès, reportage de Gazette, mais c'est pas comme si on avait un reportage sur... un pattern, ou six, tu sais, le même événement est arrivé 6 fois, pis on dit, ben, voyons, okay, c'est toutes sortes de décès, dans un cas, on parle, c'est plus l'équipement, mais l'équipement défectueux qui est en cause, dans un autre cas, c'est manque de personnel.
Il y a des erreurs médicales,
dans un
carrément.
Autre cas, c'est un suicide, il y a même un cas d'erreur médicale. Donc, les cas semblent peu reliés. Mais ce qui est relié, c'est que dans la même urgence, et c'est pas arrivé dans la même semaine, c'est sur une longue période de plus de 3 ans. Mais quand même.
Il y a des gens qui décèdent dans des drôles de circonstances.
À l'urgence. Et il semble y avoir, et là, je marche sur la pointe des pieds, il semble y avoir aussi un questionnement sur la façon dont les dossiers ont été traités. Là. Qu'est-ce qu'on a dit aux familles, comment on est, parce que quelqu'un décède à l'urgence. Et dans tous les cas, on parle pas de personnes qui avaient 97 ans puis qui étaient visiblement
fragiles,
fin de vie. Là. C'est toutes sortes d'événements pour lequel on a dû donner des explications aux entourages. Est-ce qu'on a donné exactement... Est-ce qu'on a fait toutes les vérifications, toutes les enquêtes sur le pourquoi des décès et donné toutes les explications aux gens, en tout cas? Je pense qu'il y avait un malaise que le De Gazette a reflété dans ses articles, dans sa série d'articles, et qui a forcé un peu... Mais tout ça est bizarre. Même le journaliste Aaron Derfeld, qui est celui qui s'était fait connaître durant la pandémie, qui est un peu devenu l'ennemi de...
Journaliste santé, si on veut,
ouais,
là,
ouais,
du système
hospitalier. Ouais, il est un peu devenu l'ennemi de François Legault, puis c'est lui qui avait déterré, évidemment, le cas de Aaron,
ouais,
qui l'a rendu célèbre. Mais là, j'ai vu un échange d'insultes, mais entre lui, l'attaché de presse du premier ministre, parce que Derfeld aurait demandé une entrevue à ce sujet-là avec la mère de François Legault, je pense qu'il y a 80... Dans les 90, là, je sais pas 90 quoi, mais dans les 90. Hein? Et là, il a blâmé l'attaché de presse de François Legault qui lui a pas permis d'avoir l'entrevue. Là, tu dis, ben là...
La mère du premier ministre.
Tu penses vraiment que la mère du premier ministre de 92 ans ou 80, je sais pas combien, va te donner une entrevue?
Ça, à quel sujet?
Ça n'a jamais été demandé à aucun chef que sa mère âgée donne des
votre mère doit répondre aux questions du peuple,
ouais,
Madame Legault.
Puis là, le journal, j'ai vu l'attaché de presse de Legault qui dit aux journalistes, mais là, écoute, on respecte bien le travail des journalistes, mais t'exagères. Mais je sais pas, c'est comme si toute cette histoire-là à l'urgence du Lakeshore est bizarre. Puis même l'attitude du journaliste qui fait quand même un bon travail de journaliste d'enquête en santé, mais là, tu dis, OK, tu veux parler à la mère du PM? Excuse-moi, là, de quoi on parle? Là, en tout cas, c'est vraiment... Tu sais, quand tu dis, là, si c'était un film, il y aurait de la brume tout le long dans...
Il ouais,
y aurait de la brume tout le long dans la pièce, et même sur le partie du travail du journaliste, quoi, que je remets pas en question là, son enquête qui a généré une enquête du ministre de la Santé.
Voilà.
Mais il y a du bizarre au pied carré dans toute cette affaire-là.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Québec solidaire aujourd'hui a demandé à ce que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, parte de son poste, quitte immédiatement ses fonctions de commissaire de la Ligue, tout ça après, évidemment, son passage en commission parlementaire la semaine dernière à Québec. Du Québec solidaire qui estime qu'il n'aurait pas dit toute la vérité suite à un reportage de la presse qui raconte que M. Courteau, sous serment en 2021, aurait témoigné comme quoi il aurait constaté depuis 45 ans des problèmes liés au bizutage dans son organisation. C'est un témoignage qui est en contradiction directe avec ce qu'il a livré en commission parlementaire où il a dit qu'il, dans aucun cas, il y aurait eu de cas rapportés dans la Ligue, qu'il n'y avait pas d'événements similaires comme des actes violents décrits dans la décision d'un juge en Ontario. Pourtant, on apprend dans le témoignage d'un des anciens joueurs de la LHJMQ, Stephen Quirk, qu'il aurait été victime d'abus sexuels. On a nié qu'il y aurait eu des abus sexuels en commission la semaine dernière. Bref, tout ça pousse Québec solidaire à demander le départ de Gilles Courteau. Est-ce que c'est un peu trop ou c'est justifié dans ce cas-ci?
Ben, parce que Gilles Courteau part déjà.
2024,
oui. Oui, c'est ça. Il a déjà non, mais ça, il a annoncé là, son départ pour avant fin de l'année. Ça paraît mal. Faudrait réentendre Gilles Courteau qui probablement lui réconcilierait les deux versions, mais est-ce que son témoignage devant la commission était un peu trop rose bonbon? En même temps, on a reçu à l'émission le député de Québec solidaire, Vincent Marissal. Dit, voyez-vous là, des témoignages de parents, là, des choses concrètes, mettons des récemment, là, des cinq dernières années, vous permettant d'être très alarmiste, qu'il y a encore là, qu'un jeune, mettons un parent, là, que son jeune s'en va dans la Ligue junior majeure l'année prochaine, devrait être très inquiet. Mais répond non, en même temps qu'il entend des choses, il entend des histoires. Moi, j'ai posé la question spontanément à notre chroniqueur ici, sport, Jean-François Barry, dont le fils Nathan est dans la Ligue junior majeure.
Oui.
Lui, il dit, ben non. Il dit, Nathan n'a pas vécu ça, il n'y a plus rien de ça. Mais c'est difficile pour nous de se faire une idée. Maintenant, je vais dire, tu sais, des fois, pour changer une situation, faut que tu changes les personnes. Et je pense, Monsieur Courteau, il a donné beaucoup au hockey, mais là, il est rendu au bout du chemin. Là.
Oui.
Est-ce qu'il devrait devancer son départ? Puis ça aussi, il annonce son départ là, bien d'avance. Je comprends qu'il faut qu'il fasse une transition, mais mettons que c'était le temps. Là. Mettons que des fois, le changement d'air, même si
le blâme n'est pas directement sur la personne.
Non, mais je pense qu'il a fait quand même, il a mis en place beaucoup de procédures. Je pense qu'il a voulu sincèrement que ça se règle. Est-ce qu'il a défendu sa ligue? Mais lui, il est mal pris, là. C'est à moitié, tu sais, sa job, c'est un peu de défendre sa ligue, mais en même temps, de pas défendre l'indéfendable, de mettre en place les mécanismes pour que ça se produise.
En même temps, il est pas dans tous les vestiaires de toutes les équipes de la Ligue d'hockey junior majeur.
Mais il y a un devoir en même temps envers chacun des joueurs, là. Quand les parents ont un jeune qui s'en va dans la Ligue junior majeur, il a un devoir. Est-ce qu'à certains moments, il a manqué à ce devoir-là? Moi, j'ai pas de preuves, mais c'est sûr qu'il donne l'impression que, comme on dit, que c'est le temps de passer peut-être à une nouvelle génération.
Toujours en parlant de hockey et de violence, il y a un entraîneur de hockey mineur qui doit faire face à la justice, qui est accusé hier de voies de fait au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Sylvain Bélanger, 41 ans, qui a été suspendu aussi de son poste d'entraîneur adjoint des Braves de Valleyfield, une équipe du Midget A, pour des faits qui remontent au 3 décembre dernier à l'aréna de Salaberry.
Un match qui a fini dans la pagaille.
En
totalement.
Queue de poisson, on peut le dire comme ça, effectivement. Une équipe de l'île Perrault qui venait de gagner le match contre les Braves à leur domicile et qui aurait donné là un des propos insultants en utilisant le mot en haine envers un joueur, Aiden Chase, de l'équipe. L'ado va rapporter les propos à son entraîneur qui s'appelle Jason McCaig. Lui avertit un arbitre. Il y a des insultes, bousculades, bagarres entre les joueurs sur la glace. Monsieur McCaig lui embarque sur la patinoire et tente de retirer ses joueurs de la mêlée. Et en se retournant, il y a l'entraîneur justement de Valleyfield, Sylvain Bélanger, qui lui fonce dessus et qui le pousse violemment, tombe sur la glace et tout ça est capté par des caméras à l'aréna. Et c'est pour ça, donc, qu'il sera poursuivi pour voie de fait.
Parce que son devoir comme entraîneur, là, s'il commence à avoir de la bagarre, c'est de ramener ses joueurs au banc.
Absolument.
Ce que essayait, semble-t-il, selon les images, j'ai pas vu toutes les images vidéo, mais semble-t-il, c'est ce qu'essayait de faire l'autre entraîneur.
Exactement ce que M. McCaig tentait de faire avant de se faire pousser. Et là, ça s'inscrit évidemment dans une longue liste quand même d'événements au hockey mineur comme au hockey junior majeur où on entend parler de comportements comme ça. Et souvent, qui sont même filmés
Dans la région de Québec, on a en tête l'image avant les fêtes de l'entraîneur qui est sauté carrément sur la glace, qui est sauté sur un joueur.
Ouais, qui l'a
sur
plaqué.
Un mineur joueur, je pense que c'était du bantam.
Ouais, absolument, qui l'a plaqué là, un plaquage en poche de patate là, comme on fait au football pour arrêter quelqu'un là dans ses nets dans ses pas. Et donc c'est des événements qui se succèdent comme ça. Pour ce qui est du joueur de Salaberry de Valleyfield là, il a été suspendu là pour 5 parties pour ses propos qui étaient jugés racistes. Mais pour le reste là, c'est un procès au criminel qui attend l'entraîneur qui a frappé un autre.
Tout savoir en 24 minutes.
La saga TikTok, ça frappe évidemment nos institutions politiques, mais également aujourd'hui, Mario, il y a des entrepreneurs du Québec qui ont tenu à s'expliquer sur TikTok et donner leur version selon lesquelles, pour eux, on doit garder ou pas garder l'application qui est désormais controversée. Il y a François Lambert, tout premièrement, qui s'est exprimé. Ouais.
Qui est un entrepreneur, mais slash influenceur un peu, là, qui joue un peu, joue des réseaux sociaux.
Ben, c'est sûr, qui est passé à Big Brother Célébrité, qui fait lui-même des TikTok sur lequel il a 50 500 abonnés sur sa plateforme lui-même. Lui dit ne pas craindre tout ça, dit que c'est un peu de la propagande selon lui pour lequel on pousse vers un réseau social plutôt qu'un autre. Mais pour d'autres, Mario, le cas de Pierre-Olivier Cyr, qui est le propriétaire du célèbre Clan Panton, hein, en compagnie de déménagement au refrain bien connu ici au Québec, qui lui déplore entre autres le fait qu'il y ait beaucoup de propagande sur TikTok, propagande pro-russe, propagande pro-Chine. Il dit, mais malheureusement, malgré tout ce que je trouve pas correct, cette plateforme-là, il dit, ben, je peux pas quitter TikTok. C'est le seul réseau social qui fonctionne vraiment pour mon entreprise.
Ben voyons.
Il dit, moi, j'ai pu ouvrir des franchises grâce à l'application TikTok.
La radio et la télé aussi, ça marche parce que moi, je sais le numéro, c'est 937-0707.
Et puis ça, c'est immémorial, Mario. Hein? On dirait, ça se transmet de génération en génération. Ouais.
Il n'y a pas juste TikTok qui marche. Moi, je ne l'ai jamais vu sur TikTok. Là.
Non, c'est certain. Moi non plus, mais ce qu'on...
Par exemple, pour les déménagements chez les jeunes qui sont évidemment qui ont beaucoup à loyer, qui déménagent... Les jeunes déménagent beaucoup au 1er juillet.
Ben absolument. Des étudiants qui veulent changer de logement.
C'est ça qui marche.
Lui dit c'est qu'il a pu ouvrir des franchises grâce à l'application. Dans son témoignage au journal, il dit c'est pas mon émission à Canal D qui a pu m'aider avec ça. Loin de là, c'est vraiment, vraiment la clientèle sur TikTok. Il dit j'aimerais ça le quitter. Je sens qu'il y a une propagande gouvernementale chinoise autour de tout ça, mais de l'équité.
Donc, association possible entre Jack Metzing et le clan Panton pour dire nous autres, là, c'est trop payant TikTok, faut qu'on trouve une façon d'y rester.
Mais ça se pourrait, Mario. Ça reste à suivre. On verra quelle décision Monsieur Jagmeet Singh prendra. Les dirigeants de Google sont invités officiellement à venir se présenter devant les parlementaires du comité du patrimoine, évidemment dans le cadre de tactiques d'intimidation qui auraient été mises en place par Google vis-à-vis le projet de loi C-18 du gouvernement Trudeau qui veut forcer les géants des technologies à reverser une partie des profits qui sont accumulés à partir du contenu journalistique. Et là, on a invité M. Sundar Pichai, qui est le président directeur général de Google, Richard Gingras, le directeur des nouvelles chez Google, et Sabrina Jeremia, vice-présidente et directrice de Google Canada. Seul problème, Mario, c'est que ça risque fort de rester lettre morte parce que on n'a pas vraiment d'obligation de se présenter devant ce comité-là, surtout devant des gens qui n'habitent même pas au Canada. On avait déjà invoqué Monsieur Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, pour qu'il vienne témoigner au comité plusieurs fois et il est jamais venu.
Mais là, Google, ils ont quand même l'air fous s'ils viennent pas parce qu'ils ont barbé le Canada. Il y a un projet de loi qui veut les obliger à payer pour le contenu qu'ils diffusent parce qu'ils utilisent évidemment le contenu des
journalistes,
des nouvelles, des journalistes, des articles, des chroniques, de tout ce qui se fait et qui est payé par les médias, eux l'utilisent pour se faire des revenus. Et là, ils ont menacé, parce que c'est tout un système qu'ils ont mis en place là, pour menacer de boycotter, là,
de cacher certaines
nouvelles, de bloquer
nouvelles.
Tout ce qui vient des sites de nouvelles canadiens. Et c'est pour ça qu'ils font des tests. Même il y aurait 4% de la population du Canada qui serait présentement en train de vivre le test Google.
Ouais, et sur YouTube, je peux te le dire, Mario, là, moi, là, qui appartient évidemment à Google, moi, sur mon compte YouTube, je vois partout des vidéos bizarres, des annonces, bloquer le projet de loi C-18. Pourquoi le projet de loi C-18 est terrible?
Ah, c'est avec leur algorithme te pousse des choses du genre.
Oui, absolument. Puis ce qui semble même parfois quasiment s'apparenter à de la désinformation là, de Google qui pousse comme ça sur leur propre site des
Mais
vidéos.
Mais là, au Parlement, ils vont avoir l'air fous. Là. S'ils viennent témoigner au Parlement, on s'entend que...
Ils vont se faire griller.
Ben, ils vont se faire griller, ils vont se faire humilier. Là. Bon. Ça leur tente pas de venir, ça je peux le comprendre. Mais c'est eux qui ont commencé à jouer au plus fort. Là.
Le monde.
Après qu'on ait entendu dans un document de cour qui provient du Delaware, certains courriels, échanges, textos également de certains animateurs vedettes de Fox News qui reconnaissaient, eux, avoir donné écho aux mensonges de M. Trump contre les machines de comptabilisation de vote Dominion. Maintenant qu'il y a une poursuite contre eux, bien évidemment. Là, on apprend que c'est Rupert Murdoch qui est, évidemment, le propriétaire là, à la tête de l'empire de News Corporation qui possède, entre autres, Fox News. M. Murdoch, à 91 ans, a témoigné sous serment devant les avocats de Dominion en janvier dernier. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'il a reconnu qu'il y avait eu des messages qui ont été diffusés par les animateurs vedettes de Fox News, qui évidemment renforçaient ses mensonges à l'externe.
Mais qu'ils le savaient eux-mêmes, c'est ça qui était, c'est qu'eux-mêmes à Fox News relayaient ça parce que ça plaisait à leur client, une partie de leur clientèle, la clientèle de Trump, mais qu'ils savaient que c'était de la bouillie, là.
Ouais, puis une fois l'élection terminée, les résultats annoncés également par Fox News, ben les relations entre Monsieur Murdoch et Monsieur Trump se sont envenimées et Monsieur Murdoch aurait
le lui-même ce qu'ils ont fait Fox à Trump, là, diffuser les résultats
d'une élection. Quelle horreur. Et voilà, ben donc ont amplifié par la suite évidemment divers mensonges de Monsieur Trump.
Mais quand ils ont donné le résultat en Arizona, parce que là c'était serré, puis eux avaient un modèle mathématique, là, tu sais, puis les monnaies, tu dis l'écart est rendu mettons à 2%, puis il reste tant de votes. Donc, ils ont déclaré les démocrates, le Biden, gagnant en Arizona avant les autres réseaux. Mais là, je veux dire, à ce moment-là, c'est juste de ton modèle mathématique. Eux, ils sont dans une concurrence pour donner les résultats plus vite que les autres, comme toutes les potes.
Ouais, puis les mathématiques
mais Trump, il a pété les plombs. Là, il en voulait. C'était terrible.
Et il a pété les plombs aujourd'hui, Mario, sur son réseau, là, Truth Social. Moi, je suis allé voir tantôt. Il est pas très, très content de voir que M. Murdoch a avoué finalement sous serment qu'ils avaient relayé ses mensonges.
Jamais cru.
Exact. Pour terminer, dans le sud de l'Argentine, on cherchait un homme, Diego Barea, un ouvrier du secteur pétrolier de 32 ans, qui était parti, lui, en mer, faire certains sports nautiques. Et on a retrouvé là, son engin un peu plus tard, là, son quad, avec son casque, qui était endommagé près d'une côte. Et on cherchait encore et toujours, là, pour les sauveteurs, les restants du corps de monsieur Diego Barea. Et finalement, ils ont été retrouvés à 1500 km au sud de Buenos Aires. Par qui? Par deux pêcheurs qui ont pêché un petit requin, une roussette. Et lorsqu'ils ont voulu éviscérer le requin pour le vider de ses entrailles, ils auraient trouvé un avant-bras avec un tatouage qui appartiendrait justement à Diego Barea. On a confirmé ça du côté des autorités. Donc malheureusement, macabre découverte dans le ventre d'un requin.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.